BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour, il est 9h passé de 31 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business. C'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse pour décrypter l'actualité économique du jour, bien sûr. Emmanuel Macron a clôturé hier un G7 réussi, selon les observateurs, avec pas moins de 9 communiqués signés sur la croissance, les migrations, l'intelligence artificielle ou encore les minerais critiques, avec globalement un retour des États-Unis dans le concert des nations et un accord sur le diagnostic des grands déséquilibres mondiaux. La Chine accumule les excédents, les États-Unis les déficits et l'Europe l'épargne. Mais qui fera le premier pas pour rééquilibrer l'économie mondiale? Et les droits de douane seront-ils une solution ou le meilleur moyen de précipiter la prochaine crise? Voilà pour le premier débat ce matin avec mes experts. L'ambiance sera plus offensive du côté de Bruxelles aujourd'hui, où se tient un conseil des chefs d'État et de gouvernement qui doit décider si oui ou non il est temps de sortir les armes face à Pékin et Washington. Dégainer un bazooka commercial européen, quitte à subir des représailles des deux côtés. Ce sera le deuxième débat aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi de l'économie française avec la note de l'INSEE publiée ce matin. Une économie qui refuse de s'effondrer. L'INSEE prévoit 0,3 points de croissance au deuxième trimestre, là où la Banque de France voyait une économie stable. Une petite croissance portée par l'industrie. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va voir ce qu'en pensent mes experts aujourd'hui. Et puis, on finira par parler retraite. Peut-on ajouter un étage de capitalisation sans faire payer deux fois les actifs? L'AFG, l'Association Française de Gestion Financière, vient de sortir un livre blanc en donnant une boîte à outils pour y arriver. Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passé de 33 minutes. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Marilyn Villard-Desbeaux. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Présidente fondatrice d'Origami & Co, grande spécialiste de la question des retraites. Vous allez nous éclairer tout à l'heure. À côté de vous, Philippe Trénard. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes. Et Jean-Charles Simon. Bonjour, Jean-Charles.
Bonjour.
Président de Propriété et Liberté. Alors, je le disais, le premier sujet du jour, c'est évidemment le G7 qui a clôturé ses portes hier à Évian, avant le dîner spectaculaire à Versailles hier, où a été signé le protocole de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Alors, je le disais, 9 textes, tous endossés par les chefs d'État et de gouvernement sur différents sujets. Mais surtout, je voulais qu'on s'arrête une seconde sur les grands déséquilibres mondiaux. Les membres du G7 se sont accordés sur le constat les États-Unis accumulaient des déficits qui n'étaient pas supportables, les Chinois des surplus qui se déversaient sur le monde entier, tandis que l'Europe avait un surplus d'épargne de son côté. Bon, premier mot d'abord, premier tour de table sur ce G7. Économiquement, évidemment, il a été question de beaucoup de géopolitique, mais économiquement, est-ce que c'est une réussite, Jean-Charles Simon?
Ben, je vois pas vraiment de choses concrètes. C'est rare d'ailleurs dans les G7, hein, mais je vois pas vraiment de choses concrètes.
Le simple fait de s'être mis d'accord et d'avoir des communiqués.
Déjà, avoir les salués comme victoire, ce qui était pas complètement gagné d'avance.
Et oui.
C'était évidemment indispensable pour que c'est un peu de portée. Je pense que le problème de ces constats de déséquilibre que vous faites, ils ne portent en fait aucune conséquence sur les attitudes des uns et des autres. C'est-à-dire que la Chine va pas s'arrêter en matière d'offensive commerciale et industrielle avec l'Europe. Elle est effectivement freinée par la politique de tarifs américaine qui elle-même est remise en cause par la justice, mais fondamentalement chacun reste dans son couloir de nage. Et du côté de l'Union européenne, ce qui m'embête, c'est qu'en fait on pense toujours à se dire voilà, on est un peu victime de ceci cela, donc il faudrait que nous-mêmes on devienne un peu protectionniste potentiellement pour le faire.
On va y venir.
Contrairement à nos intérêts commerciaux de beaucoup de puissances qui réussissent bien, la France réussit pas bien, mais l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, d'autres réussissent très bien en matière d'échange extérieur de biens. Donc je pense que le sujet principal que l'Europe devrait regarder, c'est pourquoi elle met des règles, en fait, elle accuse de concurrence déloyale les autres zones, mais elle met elle-même des règles extrêmement dures sur ses producteurs, et elle devrait peut-être réfléchir à envisager d'assouplir un certain nombre de règles, parce qu'on se retrouve dans une situation paradoxale sur un certain nombre de sujets dans lesquels on accepte on importe des biens produits avec des normes sociales, environnementales qui sont
inférieures
impossibles
à ce qu'on pratique,
et donc qui sont impossibles à utiliser en France, mais on consomme bien ces produits en Europe tels quels. Et juste un mot sur l'épargne, je suis toujours un peu surpris quand on parle, ça vient d'ailleurs dans plein de discours, c'est dans le rapport Draghi, dans plein d'autres choses, de cette épargne, l'Europe a une épargne abondante.
Les gens en parlent tout le temps. Ça reste une région riche du monde.
30 000 milliards, mais les ménages américains sont 2,5 fois plus riches. Donc on oublie que la quantité, le stock, hein, pas l'effort d'épargne des ménages, mais le stock...
Ah, ils ont plus de patrimoine, mais est-ce qu'ils ont plus d'épargne que les Européens, les Américains, qui consomment beaucoup plus et s'endettent beaucoup plus.
Oui, mais ils ont beaucoup plus de stock d'épargne parce qu'ils sont beaucoup plus riches, parce qu'ils investissent beaucoup plus à long terme,
et oui, dans les
parce
marchés.
Qu'ils ont des retraites en capitalisation.
Et, oui.
Et donc ça, c'est un premier mot par rapport au thème de la fin, mais ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié, les ordres de grandeur, c'est 2,5-3 fois plus aux États-Unis qu'en Europe. Hein.
Philippe, un mot sur le G7, un bilan.
Pour compléter ce que dit Jean-Charles, je n'ai pas d'opposition majeure. Je dirais d'abord, oui, le G7 est un succès à certains égards parce que tout simplement, il montre aussi un Donald Trump, non point différent, mais un Donald Trump qui accepte un tout petit peu de discuter avec ses alliés.
Oui,
j'entends,
c'est un peu le
partenaire.
Retour. Voilà.
J'en
salué, effectivement.
Deuxièmement, le constat des déséquilibres. Oui, c'est un constat, mais au fond, comme le dit Jean-Charles, où est la recette? C'est-à-dire, il n'y a pas une analyse des causes de déséquilibre. Les causes de déséquilibre, elles se trouvent aux États-Unis. Elles se trouvent parce qu'on ne peut pas distinguer le rôle du dollar du déséquilibre américain. Elles se trouvent en Europe. Comme l'a dit Jean-Charles, il y a quand même un problème. L'Europe épargne. Soyons attention, le gros de l'épargne des Français, c'est par exemple de rembourser une dette immobilière quand même. Mais ils épargnent, mais ils investissent surtout pas en Europe, ils investissent ailleurs. Pourquoi n'est-ce pas intéressant d'investir en Europe? Donc là, on se tourne
bah c'est moins rentable que d'investir aux États-Unis,
fiscalité,
quoi.
Hein, de régulation,
la rentabilité, pas
etc.
La même.
Quant à la Chine, elle épargne parce qu'elle a un déséquilibre démographique. Je ne sais pas très bien comment celui-ci on le corrige. Et deuxièmement, parce qu'elle fait au fond ce dont on rêve de faire beaucoup d'Européens, c'est de subventionner à outrance des industries, une industrie automobile, je ne sais pas quoi, des trucs dont on ne sait pas très bien si à terme ils resteront ou non profitables. Donc ce qui manque au fond par derrière, c'est un peu l'analyse. Et ce qu'on verrait bien dans ce G7, c'est de se tourner à un moment donné vers le FMI et de dire au FMI, faites-moi maintenant. Alors le FMI a donné l'essentiel quand même. Si on rassemble les différents documents de travail du FMI, on a le bilan. Mais faites-nous un petit rapport, pédagogique, qui dise quelles sont les sources, même pas les recettes, mais les sources du déséquilibre. Car une fois que vous les avez identifiées, bien évidemment, il est beaucoup plus aisé de parler des recettes. Et comme Jean-Charles, je ne pense pas que le protectionnisme qui permet aux perdants de survivre soit la bonne recette pour être sûr de croître.
Bon, ça, on va y venir, hein, parce que c'est le sujet du Conseil européen qui se tient aujourd'hui même à Bruxelles. Un sommet important, les Allemands, indiqué le Financial Times hier, se rapprochent de la position des Français sur la mise en place de barrières protectionnistes. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Marilyn Villard-Debeau, vous êtes une grande spécialiste des retraites, conseillère,
oui.
Mais quand vous regardez le G7, quelle image vous en avez? Qu'est-ce que vous en tirez?
Je rejoins dans les grandes lignes les propos de ces messieurs. Moi, je reste très terre à terre pour discuter quotidiennement avec des chefs d'entreprise. C'est très éloigné, évidemment, des préoccupations. Et,
ouais.
Et je vous rejoins sur ce que vous avez dit au début. C'est des grands discours. Il peut y avoir des répercussions concrètes dans la vie des chefs d'entreprise, mais à 10 ans ou à 15 ans. Voilà. Deuxième point, c'est positif effectivement d'avoir plutôt un accord en espérant que ce cher président américain ne change pas d'avis dans 48 heures.
Oui.
Mais c'est plutôt positif. Voilà. Mais c'est très éloigné du quotidien des chefs d'entreprise.
Qui doit faire le premier pas, Jean-Charles, pour rééquilibrer? Est-ce que vous voyez un grand bloc? Mais parce qu'on est quand même dans une guerre mondiale économique.
Oui. On est avec des blocs antagonistes, pas coopératifs. Il fut un temps où, avec les États-Unis, il y avait une capacité de dialogue potentielle, mais qui était déjà compliquée. Hein. Il ne faut pas se leurrer sur les administrations précédentes.
Oui.
Elles semblaient beaucoup
toujours
plus,
une domination américaine.
Elles semblaient beaucoup plus rationnelles et
couleurs politiques du président.
Mais l'utilisation du dollar qu'évoquait Philippe était quand même déjà largement une arme, que les Européens ne pouvaient pas infléchir. Hein. Les Américains faisaient un peu.
C'est l'outil de l'extraterritorialité américaine, le dollar.
Et du sort de ce qu'on appelle le privilège exorbitant. Hein. Voilà, bon, bah, la situation fonctionnait bien pour eux, ils en abusaient parfois. Je pense que donc il faut intégrer cette logique de bloc antagoniste. D'ailleurs, la Chine n'est pas à la table du G7 et elle se sent évidemment engagée par rien du tout de ce qui peut être dit. Donc il faut être bien clair quand vous voyez par exemple ce que font les banques chinoises en matière de crédit au secteur économique. Oui. Donc c'est subtil parce que c'est pas des aides officiellement de l'État, mais en fait on déverse des montagnes de crédits avec des règles bancaires qui sont évidemment pas du tout celles du comité de Bâle pour les banques des autres pays. Et donc on a des logiques vraiment de d'armes qui sont pas loyales, mais ça ils font prendre son parti, au sens où à part se renfermer complètement, ce qui me semble vraiment destructeur dans la situation qui est celle de l'Europe. L'Europe a besoin d'être ouverte. Alors elle est ouverte et elle a l'impression qu'effectivement elle voit disparaître un certain nombre de ces acteurs.
Eh oui, sérieusement attaqués là.
Parce que ils ne peuvent pas lutter face à ces acteurs d'autres zones qui n'ont pas les mêmes règles. Moi, je pense que le point fondamental et qui est en filigrane de ce qui était dit, c'est il faut voir comment on peut être compétitif pour produire dans certains domaines en Europe. On va pas produire dans tous les domaines en Europe, mais on peut être très bon dans certains domaines. Mais pour ça, il faut repenser.
C'est le grand sujet autour de l'IA, ça, en ce moment. Quelle brique occuper dans la chaîne de valeur? On sera pas présent partout.
Du modèle
fiscal présent.
Et du modèle social. L'Europe doit quand même se rendre compte, si je puis dire, qu'elle vit très bien par rapport à ces autres zones.
Ouais.
Elle vit très bien, elle dépense beaucoup.
On l'oublie parfois.
Ben oui, mais quand vous avez plus de 30% de dépenses de protection sociale obligatoire dans le PIB, et que les autres zones sont à deux fois moins, et ça pèse, il faut bien que ça soit payé par quelqu'un, et c'est payé par les agents économiques, par les entreprises, et par les salariés.
Philippe, dernier mot sur ces déséquilibres
Dernier mot, pense. Où on est dans l'attitude de l'Europe qui veut être plutôt coopérative, on est dans des stratégies non coopératives. À ce moment-là, il ne faut plus parler d'ordre international. Nous devons être dans des stratégies plutôt coopératives. Certes, la Chine escalée, nous ne la changerons pas. Ça, alors là, je demande à voir qui va changer la Chine.
Bien sûr.
Nous apprenons tout d'un coup que les États-Unis ne sont pas nécessairement de notre côté.
Oui.
Quant à les changer, va être difficile. Donc nous devons voir que quelque part, c'est gentil de menacer de sanctions. N'oublions pas que la moitié des États de l'ONU sont sous sanctions occidentales. Donc je ne sais pas très bien comment vous faites un accord sur un ordre international avec la moitié des gens auxquels vous avez donné un coup de pied au cul. Et donc, je pense que par rapport à la Chine notamment, la solution n'est pas et n'est certainement pas de mettre des droits de douane. Essayons d'abord de profiter du fait qu'ils vendent leurs produits, pas à leur coût de production. Les grands perdants, c'est eux, n'est-ce pas ? La majorité de l'industrie automobile chinoise est en déficit ou est à la limite du déficit.
Mais ça, c'est darwinien, c'est le modèle économique chinois.
Oui, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Et donc, quelque part, mettons en place des coopérations. Et surtout, l'Europe ne peut pas se permettre, étant donné l'attitude de Donald Trump et des États-Unis aujourd'hui, ne peut pas se permettre de se mettre à dos, de mon point de vue, la Chine. N'oublions pas, la France du XVIIIe siècle réfléchit à ce point par rapport à la Prusse et à l'Autriche.
Oui.
C'est le fameux renversement des alliances.
Oui. Donc Philippe Trénard, assis à la table du Conseil européen qui se tient aujourd'hui à Bruxelles, pour savoir si oui ou non il faut endosser les nouvelles armes proposées par la Commission européenne, à la fois pour répondre aux surcapacités chinoises, mais il y a aussi le paquet numérique de défense qui est arrivé il y a quelques jours, et donc pour répondre aux Américains du côté de la défense, vous dites non. Emmanuel Macron propose une section 303 qui est un peu l'arme ciblée, ce bazooka tarifaire pour répondre à la guerre commerciale. Vous dites non.
Je dis non. Si on était à l'origine du progrès technique, j'irais peut-être oui, mais en fait le progrès technique, nous allons l'acheter ailleurs et en dehors de France. Donc nous avons besoin de bonnes relations avec tous ces pays pour pouvoir développer le progrès technique dans notre en Europe.
Oui, en même temps, pensez à la guerre commerciale absolument de partout.
On a déjà ouvert la porte à la Chine.
Le chef d'entreprise dans l'industrie, ce que vous pouvez croiser, qui voit les surcapacités chinoises se déverser sur l'Europe, puisque les États-Unis ont fermé leurs portes. Eux, ils disent quoi? Ils veulent la protection ou pas?
C'est difficile, oui, une certaine protection, effectivement. Quand on parle de Chine, je pense aux véhicules, à l'automobile, qui ont déjà inondé quand même pas mal le marché français. Donc, les industries où l'automobile française, je ne crois pas qu'elle se porte très très bien.
Mais parce que l'Union européenne s'est tirée les balles dans le pied toute seule dans beaucoup de sujets. Personne n'obligeait au Green Deal avec cette échéance de 2035 sur les modèles thermiques. On était les leaders mondiaux des modèles thermiques de plus en plus propres. Donc on avait un avantage compétitif sur ces voitures thermiques et on s'est nous-mêmes mis dans une situation dans laquelle on a obligé nos constructeurs à dire bah non, maintenant il faut faire du tout électrique parce que sinon vous allez avoir des amendes énormes parce que votre parc de production il est métro.
Ah oui, en même temps il y a un petit sujet environnemental, Jean-Charles Simon.
Mais justement, on est les seuls, c'est là où il y a vraiment une naïveté européenne pour moi critique, on est la plus basse zone d'émissions dans ces trois grandes.
On est les meilleurs de la classe.
On est celle qui se met les normes les plus dures. Donc
Les plus irréalistes, et pour
un sujet qui est un sujet qui n'est pas un sujet de pollution locale, qu'on protège contre les pollutions locales, ça c'est très légitime pour les citoyens européens, mais là on parle d'un enjeu mondial. Le réchauffement, c'est pas, les gens l'oublient souvent, mais le CO2 c'est un sujet mondial. Si j'émets plus rien chez moi, mais que les autres émettent de plus en plus, il fera toujours plus chaud chez moi. Ça change rien. Donc ça c'est vraiment une erreur critique. Et une autre erreur critique dans un autre domaine, dans le numérique, pour moi la multiplication des réglementations. Quand vous voyez un truc comme le RGPD, ça parle à tout le monde, parce que tout le monde se tape tous les jours de dire que j'accepte
le règlement général sur la protection des données personnelles.
J'arrive sur un site, je dois accepter les cookies. Ce truc-là, tout le monde le dit aujourd'hui avec du recul, ça a été une super arme pour les GAFAM versus toutes les boîtes innovantes européennes qui se sont tapées un truc qui était plus petit, donc qui a eu un truc plus coûteux en termes de coûts fixes que les autres et qui ont été plus affectées par les nouvelles régulations européennes que par que les concurrents américains. Donc en fait, l'hyper-régulation européenne...
Je vous coupe Jean-Charles Simon, mais qui doivent appliquer le RGPD quand elles s'exercent sur le vieux continent. Nos données ne sont-elles pas le carburant de l'avenir? Le marché pétrolier de l'avenir. Donc c'est important de les protéger.
Elles ont un marché domestique énorme sur lequel elles n'ont pas beaucoup de régulation. Donc elles arrivent sur le marché européen. Bon, c'est pas un gros sujet. Elles sont beaucoup plus grosses que les petites start-up européennes.
Donc on est
les champions de la régulation qui nous fait du mal. Ça, je pense que la Commission européenne doit vraiment y réfléchir.
Est-ce que je peux ajouter
quelque chose qui
va vraiment dans le sens de Jean-Charles?
Oui.
Nous pourrions avoir les compétences pour assurer la protection des données individuelles en Europe. Mais simplement, pour pouvoir avoir justement cette compétence technologique de pouvoir utiliser les données personnelles et de les protéger, il faut d'abord commencer par les utiliser. Conclusion, la plupart des boîtes qui utilisent des données personnelles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Puisqu'on ne peut pas les utiliser en Europe, tout le savoir sur la protection des données individuelles, il n'est plus en Europe, il est aux États-Unis. C'est tout, c'est simple. Donc, aux États-Unis, vous pouvez utiliser des données personnelles et vous pouvez protéger, et vous avez toute la technologie. En Europe, vous êtes à l'âge de pierre, vous n'utilisez pas les données personnelles, et d'ailleurs, vous ne savez pas, vous n'avez pas les technologies, vous ne les générez pas en Europe, vous devez les acheter, n'est-ce pas, à des Européens qui sont délocalisés aux États-Unis pour les produire et les offrir.
Vous nous dites que nos données personnelles à nous, citoyens européens, enfin, c'est un petit sujet quand même, la protection des données personnelles.
Mais dans le monde entier, pas qu'en Europe.
Et républicain. Mais que nos données sont parties d'ores et déjà en Chine et aux États-Unis.
Alors,
grosso modo, on ne peut pas les protéger.
Qui vous offre la possibilité d'accès aux données personnelles européennes à partir des États-Unis, voire de la Chine. Bon, alors,
donc
évidemment,
c'est
ça pose des problèmes juridiques. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est la capacité à les protéger, de mettre en place des technologies qui vous permettent de protéger les données personnelles que vous utilisez et d'assurer la protection qu'attend le consommateur de l'utilisation de ces données, en même temps que le service qu'il attend aussi de l'utilisation de ces données. Quand je vais sur Doctolib, il y a des données personnelles qui sont utilisées. Je suis bien content qu'elles soient utilisées à ce moment-là.
C'est pas facile, puisque nous, on utilise des données personnelles. On gère les dossiers retraite des clients, donc numéro de sécurité sociale, pour se connecter aux espaces France Connect, impôts.gouv. Donc, c'est un travail de tous les jours, de protéger ces données, et sur toutes les sociétés qui manipulent des données, alors plus ou moins confidentielles, suivant le métier, c'est une alerte de tous les jours.
Mais la technologie n'est pas en Europe. Les vrais centres experts en technologie de la protection
Il y en a en France.
Aux États-Unis, mais c'est secondaire. Non, non, honnêtement, très honnêtement.
Mais c'est vraiment quelque chose de transversal. C'est ça qui est fascinant. Moi, je me suis occupé de la place financière de Paris ces dernières années. Le nombre de réglementations qui ne sont que européennes.
On en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Oui.
Mais c'est pas en train de changer, Jean-Charles Simon. Là, qu'on a pas backlash, avec la nouvelle commission, recul, les omnibus de la commission sont là pour simplifier.
On est allé un peu trop loin. On est allé un peu trop loin, donc on va réviser. Mais on continue, par exemple, je prends l'exemple de la CSRD, la directive sur le reporting des entreprises en matière environnementale. On continue d'être dans une logique qui n'est suivie par aucun autre continent au monde. Et pour l'instant, les États-Unis font même rien du tout, donc c'est encore.
Aux États-Unis, c'est
les autres pays vont sur des logiques plus légères, et nous, on impose aux entreprises européennes, en étant d'ailleurs obligé, à cause de la pression de l'administration Trump, d'exonérer les groupes qui ont la taille pour rentrer dans ces réglementations, mais qui sont extra-européens, parce que c'est une vision normative qui est propre à l'Europe. Et ça, je pense que c'est le principal travail. Elle a commencé effectivement depuis 2024, avec le rapport Draghi, avec le coup de semonce qu'a été l'élection de Donald Trump pour l'Union européenne. Elle a commencé à se poser des questions et à réviser, mais on est très très loin, d'ailleurs Mario Draghi l'a redit dans plusieurs discours, on est très très loin de la vitesse et de l'ampleur à laquelle il faut se reposer les questions de compétitivité de l'Union européenne. L'important, c'est de voir est-ce qu'on est un endroit attractif pour produire. On a plein d'atouts, et notamment le fait qu'on ait un grand marché intérieur développé, avec donc beaucoup de pouvoir d'achat des ménages. Donc on a cet atout fondamental. Si on est...
Est-ce que c'est suffisant d'être un marché de consommateurs pour rester une puissance mondiale ?
On peut donner envie de produire en Europe, mais pour ça, il faut changer pas mal de choses. Et quand vous voyez d'ailleurs aujourd'hui où les Européens allouent leur épargne, ils les louent malheureusement en partie en dehors d'Europe.
Ah, il y a 300 milliards qui partent aux États-Unis.
Ils allouent en partie en Europe, pas par hasard. Pas parce que c'est rigolo d'aller investir aux États-Unis, parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a des taux de rendement à aller chercher qu'ils n'arrivent pas à avoir en Europe. Donc ça, c'est quand même un sujet central. Et tant que l'Europe ne fera pas son examen de conscience et voudra plutôt essayer de donner des leçons aux autres pour que les autres la copient, bah ça marchera pas bien, parce que justement les autres sont complètement préoccupés par leur intérêt propre, et leur intérêt propre, c'est d'être plutôt passager clandestin de ces normes européennes.
Le symbole de ce que dit Jean-Charles et que je partage, c'est simplement la productivité par tête, la productivité par travailleur en Europe. C'est-à-dire vous pouvez faire les dessins que vous voulez, les réglementations que vous voulez, vous êtes perdant si votre productivité par tête baisse en termes relatifs, c'est-à-dire par rapport aux États-Unis. Or, c'est
ce qui se passe depuis des années.
Depuis le début des années 2000.
Oui.
Donc, la solution, elle commence par là. C'est comment j'accrois la productivité par tête. Et à partir de là, vous vous posez la question de la réglementation, vous vous posez la question de la fiscalité, et vous vous posez la question de la pertinence de notre système social, c'est-à-dire est-il bien dessiné, est-ce qu'il vient bien en aide à ceux qui en ont besoin? Et est-ce qu'il incite bien ceux qui sont en mesure de travailler, à travailler et à accroître les richesses ?
Bon, je voulais un petit mot pour finir sur l'Allemagne, simplement le revirement, c'était l'info du FT hier. J'en parlais en début d'émission, l'Allemagne qui serait prête à rejoindre la France sur la mise en place de tarifs douaniers. Ça pose la question, moi je trouve, de l'Allemagne au cœur de l'Europe, qui était très influencée par les constructeurs automobiles allemands, Mercedes, BMW, Volkswagen, qui va ouvrir des usines en Chine pour revendre les véhicules en Europe après. Est-ce que c'est un game changer, cet accord?
C'est en tout cas intéressant. Ça montre que ce qu'on attendait en fait au moment de l'élection de Friedrich Merz, c'était une Allemagne beaucoup plus dominatrice, si je puis dire, de l'Union européenne, ne se matérialise pas, en partie à cause des difficultés de Friedrich Merz.
Oui, de politique intérieure.
Et donc en fait, on voit effectivement une petite bascule, une sensibilité sur laquelle surfe l'AfD en Allemagne, beaucoup. L'extrême droite allemande sur le thème de l'Allemagne est en train de se faire envahir et de se faire détruire son appareil industriel qui était légitimement sa fierté et son atout numéro un. Donc c'est un changement effectivement important parce que l'Allemagne était traditionnellement effectivement opposée à toute mesure coercitive et de réplique aux politiques commerciales des autres grands ensembles. Est-ce que ça ira loin? Je suis pas sûr, parce qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup d'autres pays dans l'Union européenne qui n'ont pas cette volonté-là, sont des pays, encore une fois,
qui ont beaucoup à perdre.
Exactement, eux, ce sont des pays qui ont des excellents commerciaux.
Oui.
Là, c'est pas le cas de la France, mais c'est le cas de plusieurs pays européens.
Bon.
Peut-être, oui.
Philippe.
C'est un des soucis, comme vous le savez, des rencontres d'Aix-en-Provence du Cercle des économistes qui va mettre ce sujet vraiment...
De 3 et 4 juillet.
Voilà, absolument. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que l'Allemagne, là, a un changement d'attitude. Mais faisons attention. D'abord, c'est assez récent. C'est un changement de mœurs. La vraie question de l'Allemagne, c'est comment l'Allemagne pourra conserver ses liens avec les États-Unis, parce qu'on ne peut pas imaginer une Allemagne qui se détache des États-Unis, il ne faut pas rêver. Pour l'Allemagne, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, ça reste les États-Unis, on pourra faire toutes les opérations imaginables, ils ne changeront pas ce point de vue. Et inversement, en revanche, s'européaniser. Alors, on voit bien qu'il y a un défi, parce qu'actuellement, en matière de défense, tout d'un coup, certes, l'Allemagne parle d'un côté de tarifs douaniers, et on se dit, tiens, il se rapproche d'autres Européens qui parlent de tarifs douaniers.
Ah, notamment
en matière de défense, elle pense la défense allemande et l'industrie allemande.
On a vu l'échec du SCAF.
Alors qu'il faudrait penser, et on le voit bien, même les Français, même Emmanuel Macron, ils pensent tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire avec les Allemands. C'est pas immédiatement la pensée allemande. Et là, on a un vrai sujet, un vrai défi. Mais là aussi, je pense qu'on revient d'ailleurs au sujet que nous avons évoqué de prime abord, c'est-à-dire l'efficacité du travail en Europe, l'efficacité de la fiscalité, etc. Ça fait partie, en tous les cas, de la solution au problème et d'une meilleure coopération à l'avenir en Europe.
Alors que Pete Hegseth, le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense américain, vient d'annoncer un réexamen de la présence militaire américaine en urgence. L'urgent vient de tomber sur l'AFP. On parlait industrie. On va voir que c'est peut-être l'industrie qui se porte le mieux, en tout cas qui se porte pas trop mal, moins mal que prévu. En France, c'est la note de conjoncture de l'INSEE qu'on va décrypter ensemble après une courte pause publicitaire. Et puis on reviendra sur ce livre blanc, l'AFG, l'Association Française de Gestion Financière, qui propose une boîte à outils des voies et moyens pour instaurer un étage de capitalisation, de retraite par capitalisation. Ce sera évidemment l'un des grands débats de la présidentielle 2027. On va passer en revue tout ça ensemble d'ici une petite minute. Restez avec nous.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Il est 10h pile, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts pour encore une demi-heure de débat et de controverse ensemble avec Marilyn Villard-Desbeaux, présidente fondatrice d'Origami & Co, Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes, et Jean-Charles Simon, président de Propriété et Liberté. On va revenir ensemble sur la note de conjoncture qui a été publiée hier soir par l'INSEE, cette note traditionnelle qui nous donne les prévisions à 6 mois. Alors, avec plutôt des... Bon, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein. C'est toujours pareil. Jean-Charles Simon, vous allez nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs.
Oui, c'est...
Une croissance revue à la baisse, mais quand même des signaux, moi, je trouve plutôt positifs. On va y venir après. Mais d'abord,
votre tour. Oui, ça aurait pu être pire. Déjà, ça aurait pu être pire. D'ailleurs, la Banque de France est plus pessimiste que l'INSEE. Hein, 0,5 versus 0,7. Donc, le 0,7, c'est pas si mal.
0,7% de croissance annuelle. Donc, c'est la prévision de l'INSEE pour 2026. 2025. Il y a deux jours, la Banque de France disait 0,5, effectivement.
Avec un deuxième trimestre qui serait à 0,3 et donc qui est assez dynamique.
Ça vous a surpris, ça?
Oui, ça m'a surpris parce qu'effectivement, la douche froide du premier trimestre laissait augurer avec un deuxième trimestre marqué par la guerre en Iran quelque chose d'assez négatif. Et puis, on voit qu'en effet, justement dans l'industrie, par exemple, les choses tiennent mieux. Il y a même des effets qu'évoque l'INSEE en termes de commerce extérieur. C'est que finalement, une partie du monde, notamment dans le Golfe, étant un peu paralysée, ça a été positif pour les industriels européens, dont les industriels français.
Donc ça va au-delà, hein, le commerce extérieur qui deviendrait le premier pilier de la croissance en France en 2026. Ouais, je n'ai entendu parler que de déficits commerciaux tout du long de ma carrière de journaliste. Entendre dire, Philippe Trénard, que le commerce extérieur va être notre premier pilier de la croissance, c'est quand même surprenant, non?
Absolument, ça montre au fond qu'on est dans une phase où il y a une fragmentation du monde, et nous on pense fragmentation du monde, on ne va plus échanger, mais le monde a été tellement mondialisé que bien évidemment il contourne cette fragmentation par des échanges qui se développent et dont nous avons bénéficié. Donc à ce stade, ce n'est pas éternel, hein. Ça c'est un peu conjoncturel.
Oui.
Nous avons bénéficié de cette fragmentation du monde telle qu'elle s'est développée aujourd'hui, comme vous l'avez souligné au Moyen-Orient. Et deuxièmement, il y a aussi cet effort de défense, cet effort que font de nombreux acteurs d'investir et de réviser d'abord les règles ESG qu'ils avaient dans leur entreprise, de surtout pas mettre un centime dans la défense, qui était bien évidemment une erreur. Et deuxièmement, de commencer à mettre de l'argent et à investir. On voit que la dynamique change. Alors, maintenant, les problèmes restent toujours présents. Ce qui a plombé au-delà du raisonnable industrie, continue à la plomber en termes de fiscalité, de, notamment.
Oui, et de production qui pèse lourd.
Et deuxièmement, en même temps, je pense pas que notre production d'acier, etc., enfin, on fait plus d'acier, mais de tôle retravaillée, etc., doivent rester, d'une certaine façon, notre horizon et notre idéal de production. On a tous les défis liés aux nouvelles technologies, on a tous les défis liés à la génétique, on a tous les défis liés à l'intelligence artificielle, et honnêtement, on sort quand même de l'industrie traditionnelle, et c'est là que sont nos grands défis, et c'est là aussi qu'est notre avenir.
Avant de venir vers vous, Marilyn Villard-Debeau, pour parler du pouvoir d'achat des Français qui va baisser encore une fois cette année, et ça c'est le côté négatif de la note de conjoncture, quand même, je voulais revenir sur ces chiffres de l'industrie avec vous, Jean-Charles Simon, 0,5% de hausse de la valeur ajoutée, le transport est le naval qui ont vu leur chiffre d'affaires croître de 20% en un an. C'est quand même
Des grosses commandes.
La chimie qu'on disait absolument moribonde qui repart parce que des infrastructures ont été détruites au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça va nous dire de la croissance de demain ?
Alors, ces chiffres, en partie, vous citiez le transport naval, attention, parce qu'il y a beaucoup là-dedans de grosses commandes. Alors, elles pèsent négativement quand il y a des reports, ce qui a été en partie le cas au premier trimestre, et puis elles pèsent positivement, donc notamment les commandes d'Airbus.
Donc, c'est l'effet conjoncturel.
Les commandes d'Airbus, c'est un classique de la conjoncture.
Oui.
C'est un vrai effet, selon que vous le décaliez de trimestre sur l'autre, c'est un vrai effet quand il y a des grosses signatures, des grosses commandes, ça change évidemment la question des chiffres de la conjoncture sur ces deux secteurs industriels. Moi, ce qui m'importe effectivement le plus, vous le citiez, c'est cette affaire pouvoir d'achat et chômage, parce que c'est là où on voit que dans la note, pour moi, la note le plus intéressant, c'est les perspectives politiques qu'il y a derrière, c'est qu'en veille d'élection, vous allez vous retrouver avec une deuxième année où le pouvoir d'achat va baisser et une année où le taux de chômage remonte. Et ça, on avait fait une étude il y a quelques temps là-dessus sur des dizaines de séquences électorales. En fait, la dynamique, c'est la dérivée première de ces deux indicateurs, c'est très central dans les comportements des électeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les électeurs vont oublier un peu les niveaux, mais vont voir la dynamique récente sur les derniers mois et vont sanctionner plutôt le camp qui était en place pour choisir une alternative. Donc ça, c'est assez... je sors complètement de la partie analyse conjoncture économique, mais quand
mais ça a des impacts politiques importants
de la note.
C'est important
de la note. La remontée à 8,4 du taux de chômage et la nouvelle dégradation du pouvoir d'achat par unité de consommation en 2026, c'est deux choses qui vont peser, je pense, sur la séquence électorale.
Marilyn Villard-Debeau, donc on le disait, effectivement, je crois que la baisse était du pouvoir d'achat des Français de 0,8 en 2025. Elle serait encore de 0,7 cette année en 2026. Vous les côtoyez tous les jours, des Français qui préparent leur retraite et vont les conseiller. Qu'est-ce que vous entendez ?
Oui, alors je voulais juste revenir sur, effectivement, voyons le verre à moitié plein pour ce taux, ces chiffres de l'INSEE. Soyons positifs. Toutefois, au quotidien, alors on a parlé de grands secteurs d'activité. Moi, je côtoie plutôt des TPE-PME qui, je crois, couvrent majoritairement le territoire national en termes d'entreprise. C'est pas du tout ce qu'on ressent. On sent des entreprises quand même, ou des entrepreneurs, en difficulté, déployer beaucoup plus d'énergie pour arriver à peu près au même résultat.
Oui.
Ils y arrivent. Donc ces chiffres-là sont...
C'est ça qui est intéressant, de confronter la macroéconomie et la réalité du terrain à chaque fois.
PME,
c'est pas ce que vous voyez sur le terrain. Non.
On le voit dans les chiffres des défaillances, malheureusement, qui sont colossaux.
Donc beaucoup de...
Ceci étant, ils ne sont pas à des niveaux historiques. Ils remontent.
Ils sont remontés au-delà de l'avant-Covid. Donc on est quand même à...
Le quotidien du chef d'entreprise n'est vraiment pas facile pour conclure ses contrats, pour vendre. Et on voit beaucoup de licenciements, plans sociaux, des seniors qui se retrouvent donc à France Travail. Il y en a beaucoup. C'est la majorité, en tout cas, de nos clients salariés.
Et la hausse du coût de l'énergie, c'est là où on pensait, c'est là notre erreur de prévision, nous pensions que la hausse du coût de l'énergie allait conduire forcément à un déclin industriel et c'est pas tout à fait ce qu'on a vu.
Mais non, on voit qu'en fait c'est les ménages qui vont payer la facture.
C'est les ménages qui vont payer la facture. D'ailleurs, comme aux États-Unis, ce sont les ménages qui ont payé la facture des droits de douane in fine, ou une partie les ménages et une autre partie les entreprises qui ont des marges.
Ça veut dire qu'il fallait protéger davantage les Français, Marilyn Villard-Debout, et les mêmes questions à tous les trois.
Alors, si on parle des Français, ou en tout cas les salariés sont déjà beaucoup protégés, c'est peut-être pour ça qu'on manque de productivité au travail. Il y a beaucoup de protection des Français comparé à d'autres pays. Voilà, c'est très encadré. Le chef d'entreprise peut pas faire grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de lois. Voilà ce que je peux dire, moi, à ce sujet.
Et sur les carburants, la hausse du prix des carburants, on a eu des aides extrêmement ciblées. Ça n'a pas été 2022, on a sorti le carnet de chèques et le quoi qu'il en coûte à tous les étages.
Il faut arrêter de vivre dans un monde parallèle. Je veux bien qu'on fasse le quoi qu'il en coûte, et il est où l'argent? Alors, il y a quelques vagues personnes, je ne sais pas, Piketty nous dit qu'il y a derrière la porte beaucoup d'argent et qu'on pourrait se servir là-dedans. Mm. Honnêtement, moi, je ne le vois pas. Je ne vois même pas la porte. Quant à la clé de la porte, je ne l'ai jamais vue. Non, honnêtement, il n'y a pas d'argent.
Gilbert Sept disait hier sur ce plateau que le bouclier énergétique avait quand même permis à la France d'avoir une inflation bien moindre que nos voisins européens et que donc les salaires avaient moins augmenté et qu'on avait gagné 15 points de compétitivité en 5 ou 6 ans depuis le Covid. Alors, ça nous a coûté cher. Certes,
bien sûr, oui,
mais on redevient plus compétitif et peut-être ce qui explique les chiffres du commerce extérieur plutôt positifs aussi.
À part qu'on ne sait pas comment gérer les finances publiques, la prochaine majorité, je ne sais pas quelle elle sera, mais qui aura à gérer la dette publique et le déficit public, je ne sais pas ce qu'elle peut bien faire. Mmh. Et alors, le pire dans tout ça, c'est qu'on se trouve à peu près, j'allais dire, sur l'ensemble de l'échiquier, sur des personnes qui proposent actuellement, en tous les cas dans l'état actuel de la concurrence électorale, qui proposent la distribution de pouvoir d'achat à partir d'un argent qui n'existe pas. Voilà. Donc là, pour ma part, c'est une très grave erreur parce que forcément, quelque part, ceci ne peut conduire qu'à soit des réactions populistes extrêmement violentes, vous avez promis, j'ai pas.
C'est ce que laisse entendre Jean-Charles Simon.
Première solution. Et deuxième aspect, peut-être on va avoir les deux. Bien évidemment, un backlash au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de l'emploi ou au niveau des deux.
Oui, donc, c'est ce que prévoit un peu l'INSEE.
Ça se termine comme ça, après quelques heures d'euphorie.
Pour moi, c'est une faute lourde de la classe politique assez globale. Il n'y a pas eu beaucoup de voix dissonantes, hein, parce que Bruno Le Maire a raison de rappeler que quand il faisait ses chèques, les gens lui ont demandé plus au Parlement. Donc, il n'y avait pas vraiment de voix de la raison. C'était une faute politique globale de laisser penser qu'en fait, c'est à l'État de préserver le pouvoir d'achat des Français. C'est-à-dire cette idée que c'est l'État qui doit donner de l'argent pour préserver le pouvoir d'achat des Français, qui est absurde en soi, parce que c'est l'argent qu'il a, c'est l'argent des Français.
Oui.
Le truc n'est absolument pas raisonnable. Et dans d'autres pays, justement, les gens sont beaucoup plus acculturés à l'idée que il y a des chocs.
Il faut les encaisser, quoi.
Il faut les encaisser.
C'est vrai qu'on est très protégés.
Les ménages les encaissent. Et c'est la dynamique économique. Le fait que l'emploi va repartir, que du coup les salaires vont remonter, que les choses vont bien se passer. Donc là encore, c'est mettre dans l'action de l'État les meilleures conditions pour que l'activité reparte, que les gens embauchent, que les gens investissent. C'est donner ces conditions-là, c'est pas aller faire des chèques aux gens. Et c'est avec ces conditions-là, quand elles sont bien remplies, bien réussies, que en dépit d'aléas conjoncturels, on va avoir une progression du pouvoir d'achat sur la durée.
Et peut-être...
Vous dites, Marilyn, juste une seconde, assister.
Oui, mon avis, c'est que le français est très, très assisté, à tout niveau.
Et il est convaincu de ça.
Et donc, je vous rejoins sur... c'est pas à l'État de donner de l'argent pour aller faire le plein, enfin, c'est le chat qui se mord la queue, si vous voulez, on s'en sortira jamais si on continue à prôner ce genre de décision.
Philippe Trenard.
Oui, je crois que une vraie politique sociale, c'est pas une politique sociale qui vit en état d'apesanteur dans le ciel, n'est-ce pas, où on détermine des niveaux de vie, etc., qui sont sans rapport avec la réalité économique. La politique sociale, c'est le droit aux personnes qui ont une mauvaise santé, qui ont des problèmes extrêmement graves, de participer à la richesse sociale qui est créée. C'est pas le droit de s'en distinguer pour avoir un avenir brillant quand les actifs verraient bien évidemment leur pouvoir d'achat baisser. Si le pouvoir d'achat des actifs baisse, le pouvoir d'achat de l'ensemble des prestations sociales doit baisser avec celui des actifs. C'est un principe de base. La politique sociale, c'est une participation à la richesse de la nation.
Donc, si je vous demande à tous les trois si avec 59 000 emplois privés détruits, c'est la prévision de l'INSEE cette année, un chômage attendu à 8,4% en fin d'année et un investissement presque à l'arrêt, est-ce qu'il faut plutôt soutenir la demande et protéger ou accélérer les réformes de compétitivité?
Il faut évidemment accélérer les formes de compétitivité. Il faut faire en sorte que justement créer de l'emploi, ce soit plus facile en France. On est encore très très loin. Très très loin. Je ne dis pas que Macron a rien fait. Hein. Il a fait des choses avec notamment les ordonnances Pénicaud de 2018. Mais il faut aller beaucoup plus loin dans ce sens.
Et ce sera plus durable.
Et absolument. Et c'est ça qui va, de manière pérenne, recréer beaucoup plus d'emplois. Comment ça se fait qu'on a monté à au-delà de 8% de chômage alors qu'on est à 3 ou 4% dans des économies qui ont le même taux de croissance? Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet encore de marché du travail en France.
Gros sujet, oui.
La politique de la demande, c'est un feu de paille. C'est pour quelques mois. Ce dont on
Mais quand on a un ralentissement de cycle comme ça, est-ce que c'est pas le moment? C'est ça, l'amortisseur qui est
bien. Est-ce que c'est un ralentissement de cycle de quelques mois? Si nous étions sur un ralentissement de cycle de quelques mois, et dans quelques mois, la productivité française, tout repart de plus belle, OK, je suis d'accord pour une politique keynésienne, une politique de soutien de la demande.
On n'est pas en crise.
C'est pas ça. À l'heure actuelle, notre problème, il est dans l'offre. C'est une production qui se traîne, non seulement une production qui se traîne, mais dont le trend a tendance à baisser, à tendre extrêmement dangereusement vers la stagnation, n'est-ce pas? Et un pouvoir d'achat qui a plutôt tendance à baisser parce que à côté, la productivité a plutôt tendance à se ralentir, n'est-ce pas? Donc, c'est bien cela qu'il faut changer. Il faut changer la dynamique et il faut donc poursuivre les réformes. On a fait des réformes, il faut aller plus loin.
Bon, voilà pour le message. Avant le dernier thème des débats des experts ce matin, il est 10h passé de 14 minutes. Pour réagir, n'hésitez pas sur mon compte Twitter, @lejeanrat. Je voulais qu'on passe aux retraites pour terminer avec ce rapport de l'AFG, l'Association Française de Gestion Financière, qui a publié un livre blanc, c'est son rôle, donc c'est les professionnels de la gestion, elle le fait régulièrement. Là, sur la retraite par capitalisation, avec toujours cette même et grande question qui n'est pas simple, c'est comment gérer à la fois la transition de ce double modèle, c'est-à-dire qu'il faut continuer à payer une retraite par répartition, mais si on met en plus de la capitalisation, ça veut dire que on va devoir payer deux fois pour assurer sa retraite, c'est ça, Marine?
C'est ça, et c'est la question qui va payer, du coup. Donc c'est vrai que la retraite, donc ça s'anticipe pour tout un chacun, on le voit tous les jours.
Quels sont les bons conseils que vous pouvez nous donner, que vous donnez aux clients?
C'est d'anticiper, d'anticiper, de pas attendre le dernier moment. Alors je parle des retraites par répartition. Oui. Bien entendu, l'épargne n'est pas mon propos, voilà. Mais les retraites par répartition.
Et ça veut dire quoi, anticiper sa retraite par répartition? Parce qu'on paye finalement et puis on touche à la fin et on n'a pas trop le choix.
Eh ben non. Se pencher sur son dossier retraite, c'est pas prendre pour argent comptant votre relevé de carrière au dernier moment avec ce qui est écrit dessus.
Ah.
C'est déchiffrer, comprendre, vérifier, contrôler. Il y a des anomalies d'enregistrement, en moyenne 6 à 8 par carrière. Mmh. Ce sont les statistiques depuis une dizaine d'années sur les dossiers de nos clients et qui peut changer la donne. Du coup, sur mon âge du taux plein, par exemple, où j'ai le droit à une carrière longue.
Parce qu'il y a des oublis.
Des oublis, parce que on l'a dit tout à l'heure, l'administration, les réformes, c'est un millefeuille de réformes, les retraites. Du coup, il y a des erreurs, des trimestres oubliés, des points oubliés, des périodes oubliées, ce qui remet en cause le montant affiché sur le relevé de carrière et où la date. Voilà. Et le dirigeant d'entreprise, il a la main sur sa retraite par répartition. Il peut décider de moins se rémunérer pour payer moins de cotisations. Quel est l'impact sur le montant de ses retraites à la fin? Il épargnera par hasard à côté s'il le souhaite. Il peut aussi changer de statut. Je parle bien du dirigeant, le salarié prend la main. Il est salarié, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que ça se prépare. Et puis, forcément, il y a une perte de revenus. Quoi qu'on en dise, qu'on fasse au mieux, qu'on récupère les erreurs, en moyenne, c'est 300 euros net par mois. L'écart entre l'estimation de la caisse et la réalité.
Ça n'est pas rien.
Voilà. Et puis en plus, si vous imaginez qu'on a pu lui faire prendre sa retraite deux ans avant, je vous laisse multiplier. On perçoit sa retraite en moyenne 25 ans, si tout va bien. Du coup, il y a une perte de revenus, quoi qu'on fasse. Et évidemment, la perte est la plus énorme sont pour ceux qui gagnent 200 000, 300 000 euros par an. Effectivement, ils se retrouvent avec une retraite, s'ils ont cotisé au taquet toute leur vie, on peut être à 7, 8, 10, 12 000. Mais enfin bon, entre 300 000 par an et 12 000 par mois, il y a quand même une baisse Donc la retraite coûte cher. Évidemment, on le sait. Je ne vais pas revenir sur les chiffres que tout le monde a vus.
Bah, il y a de moins en moins de cotisants par pensionné,
par actif,
forcément.
Oui, exactement. C'est dans les tuyaux depuis un moment, la retraite par capitalisation.
Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de la faire avec le PER qui a été lancé en 2019, 15 millions aujourd'hui je ne sais plus si c'est de PER ou de français.
Oui,
de PER,
alors un peu, mais c'est quand même de
donc
l'épargne.
Donc elle est en train d'être mise.
C'est quand même de l'épargne.
C'est le concept de la retraite par capitalisation.
Stock, hein, regardez, c'est 150 milliards de stock, le PER. C'est très bien, c'est super.
Oui.
L'outil est bien, il ne faut plus trop y toucher. C'est surtout pas le défaire fiscalement. Donc ça, c'est un bon outil, mais c'est un outil complémentaire du système. Le problème, c'est que ça ne change rien à l'équation globale macroéconomique du système de retraite.
Oui.
Le cœur de l'équation...
C'est un signe que les Français croient de moins en moins à leur retraite par répartition.
Le cœur de l'équation,
par contre,
le corps l'a redit récemment. Ce n'est pas tellement d'ailleurs les déficits, parce que les déficits, là-dedans, il y a plein de conventions entre les subventions de l'État, les taux d'équilibre, etc. Tout ça est d'un intérêt second. Ce qui compte, c'est la part des retraites obligatoires dans le PIB, parce que c'est ce que payent de toute façon les contribuables, que ce soit par des cotisations,
oui,
de l'impôt ou de la dette. Et ça, ce que nous dit le corps, c'est que ça va remonter à plus de 15% du PIB, on est à 14,1, ça va remonter à plus
alors
de 15%
alors qu'on est à 14 et qu'on a déjà 2 points de PIB de plus, c'est-à-dire 60 milliards de coûts supplémentaires par rapport à la moyenne européenne.
Alors la bonne solution, moi ça fait plus de 25 ans que je milite pour ce que l'AFG a sorti hier,
à savoir.
Je suis particulièrement heureux qu'une institution qui est dans l'univers MEDEF, qui est dans des gens qui ont un rôle dans la gestion du système global des retraites français, prend ce parti de défendre la réforme qu'on appelle un peu à la suédoise, c'est-à-dire qu'on dit on va transformer une partie des cotisations en répartition actuelle, existante, en cotisation capitalisation. Pourquoi ? Parce qu'on veut pas augmenter le taux d'effort des salariés qui est déjà beaucoup trop élevé.
Et oui, c'est
par
plus du
pays.
Quart de la fiche de paie, hein, 28%
du salaire brut entre la part patronale et salariale. On est déjà au-delà de ce qui est raisonnable.
Et donc, des entrepreneurs.
Patronale et salariale. Par patronale est prédominante.
C'est ça.
Tout ça est beaucoup trop lourd déjà, pèse sur la compétitivité et pèse sur le pouvoir d'achat. Donc il faut faire moins ou en tout cas pas faire plus. Alors pour faire autant en introduisant de la capitalisation, qui est une solution pour ne pas arriver au fameux 15,3% de PIB en 2070,
oui,
puisque vous allez faire baisser les droits à la répartition et donc les pensions qui seront versées dans quelques décennies, il faut introduire de la capitalisation. Même si on est un grand adversaire de la capitalisation, comme le sont certains économistes du débat
public. C'est moins un gros mot qu'avant, moi j'ai l'impression.
Bah ça y est, c'est rentré.
C'est rentré dans les...
Maintenant, vous avez les candidats du Bloc central, il y a un vrai changement des mentalités. C'est la première fois que je vois une élection présidentielle où vous avez plusieurs candidats crédibles qui portent le sujet de la capitalisation.
Oui.
Et donc, ce que dit l'AFG, elle donne la méthode qui me semble la bonne méthode pour faire, c'est donc de dire, on n'augmente pas le taux de cotisation global, mais on a quelques points qui deviennent des points de capitalisation. Comment on finance la transition?
Parce que comment on paye nos retraités si on enlève
comment on fait en sorte que les régimes de retraite, en plus, ils font la bonne solution qui est de dire que ça doit se faire à l'intérieur du régime SGCARCO. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la bonne solution, c'est de faire ça dans ce régime-là.
Est-ce qu'ils seront d'accord?
L'FG est une partie prenante puisqu'elle est du côté du patronat qui co-gère le SGCARCO. Alors après, comment on fait pour que le SGCARCO ait les recettes pour gérer la transition des quelques décennies pendant lesquelles le système ne sera pas encore arrivé à régime permanent. Il faut trouver des recettes exceptionnelles. Alors c'est là où je trouve que le rapport de l'AFG manque peut-être un peu d'ambition. Il dit il y a des recettes comme le patrimoine immobilier de l'État, comme les dividendes des participations de l'État. Mais les dividendes des participations de l'État, ils viennent déjà réduire le déficit public. Donc c'est pas forcément une recette réemployable.
Oui.
Moi je propose une solution, je l'ai dit dans un autre journal économique, c'est d'utiliser une ressource qu'ont justement les partenaires sociaux sous la main, qui est leur parc de logement social. Ils ont un parc de logement social de plus d'un million de logements. On pourrait imaginer que le pôle Caisse des dépôts, qui a à peu près la même chose, mette aussi ça en contribution, et qu'on fasse comme dans d'autres pays, l'Allemagne notamment l'a fait, c'est-à-dire qu'on vend par lot ces logements sociaux, on ne change pas la nature, mais on a du coup des recettes one-shot en centaines de milliards. Et ces recettes-là sont des recettes idéales pour ne léser personne, ne pas faire porter un effort supplémentaire sur les actifs pour pas qu'ils payent deux fois, ne pas faire d'autres trous supplémentaires dans les finances publiques et financer cette transition sur qui est une transition d'une quarantaine d'années en sifflet, le temps de monter en puissance.
Donc
avec
on
la
vend
capitalisation.
Le et là, on a logement social à des bailleurs privés,
à des bailleurs, mais qui ont un cahier des charges pour rester de nature
rester
sociale.
Rester dans le social, hein, évidemment, mais pas les locataires dehors.
Oui, il faut imaginer que c'est comme une concession d'autoroute aujourd'hui. Les
une grande transmission du logement social, exactement, des partenaires sociaux vers le parc.
L'exemple, c'est les concessions d'autoroute. Regardez, les concessionnaires d'autoroute, ils n'ont pas la main sur la politique tarifaire des péages, mais ils essaient de faire leur
ils
profit parce qu'ils gèrent mieux que ne le ferait un opérateur public. C'est ça le pari, ça permet d'avoir
et alors ça,
ça.
Vous dégagez combien avec ça?
Des centaines de milliards. Ça dépend de l'ampleur du parc.
Parce qu'on sait qu'il faut 200 à 300 milliards minimum, oui, hein, bah pour
le parc Action Logement, c'est un peu plus de 100 milliards. Le parc, exactement. Le parc CDC Habitat, c'est à peu près autant. Et vous pouvez aussi mettre sur le marché les institutions de prévoyance que gèrent les partenaires sociaux. Tout ça, ça fait largement les 250 milliards qu'il faut pour la transition. Et vous n'avez surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez lésé personne et bénéfice au passage additionnel, ben vous avez probablement des logements sociaux qui seront mieux gérés et plus propres qu'aujourd'hui.
Et des DMTO, des droits de mutation, oui, voilà, titre onéreux qui rempliront les caisses des collectivités locales.
C'est vraiment
Philippe
une
Trénard.
Solution à étudier, et notamment pour le logement social lui-même, parce qu'aujourd'hui c'est une catastrophe. Mais juste trois remarques. Première, ce que disait madame, les erreurs. Moi, j'ai découvert que fonctionnaire oui, d'administration centrale, n'est-ce pas, du ministère des Finances,
oui,
n'est-ce pas, j'avais 20 ans de carrière dans le secteur public, il y en avait 15 qui ont disparu. Donc,
ah oui,
c'était 5.
C'est
voilà,
courant.
Je vous donne voilà les erreurs. Et c'est pas en deux semaines ou trois semaines ou quatre semaines, vous trouvez face à une administration.
Ça paraît absolument incroyable, pardon,
aberrant.
Philippe Trénard.
Et vous vous trouvez face à une administration qui vous dit, mais mon monsieur
fonctionnaire
Trénard,
du ministère des Finances,
tentez,
c'est quand même
vous
cocasse.
Vous êtes corrompu, vous tentez de nous corrompre, vous n'avez jamais fait 20 ans dans
vous
le
n'avez jamais cotisé.
Même le brave Jean-Charles sait que vous trouvez dans des situations absurdes.
Ubesque.
Deuxièmement, pourquoi faire de la capitalisation? Parce que quand même, revenons un tout petit peu. Ben, c'est très simple. La classe moyenne n'aura pas sa retraite. Parce que comment on va payer ces retraites qui coûtent très cher? Ben, ça va être très simple. On va prendre le système beveridgien et on va dire aux gens, on vous paye juste une retraite minimum, une retraite de smicard. Voilà. Le français, c'est de la, en plus, c'est très beau.
Vous faites
c'est
partie de ceux qui disent que les jeunes n'auront pas de retraite.
Non,
demain,
ils auront la retraite minimum. C'est très beau. Généralement, ils font don de leur retraite au reste aux français les plus pauvres et eux accepteront une retraite à 1 200 euros, etc. Donc, si la classe moyenne ne met pas de l'argent de côté, je vois pas très bien quelle retraite elle va avoir. Donc il faut qu'elle fasse la retraite par capitalisation, car de toute façon, que oui ou non la transition se passe bien ou se passe mal, de toute façon on voit très bien que la classe politique, elle va aller directement vers le fait de raboter les retraites pour les faire descendre vers leur minimum, ce qui in fine n'aura plus aucun intérêt. Alors, deuxièmement, si nous faisons de la retraite par capitalisation, d'abord, on a au fond ce rêve un petit peu qui était celui de Macron, de la retraite par points, c'est-à-dire une retraite un peu individualisée. Vous avez in fine un petit peu ce qui correspond à votre effort. Et deuxièmement, si nous associons cela, mais si nous ne le faisons pas tout seul, à des réformes structurelles dont nous avons parlé, c'est-à-dire que nous allons faire des gains de productivité. Nous allons générer une épargne qui va s'investir dans
l'IA. Oui, c'est le sujet de l'investissement long,
voilà,
aussi,
et donc,
bien sûr.
Je ne dis pas que ça va couvrir tout le coût de la transition, mais ça va en couvrir une partie. Et qu'après ça, ben, il faudra aller chercher des solutions comme celles que propose Jean-Charles, éventuellement, peut-être de travailler plus. C'est vrai que certains parlent de baisser l'âge de la retraite.
Vous dites un gros mot, là,
Philippe. Votre durée de vie s'allonge, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas assez de jeunes. Il est clair qu'il faut probable, et que nous vieillissons en bonne santé. C'est vrai qu'en profiter pour faire le tour du monde et d'aller voir les phoques dans l'Antarctique, c'est très sympa, mais on peut aussi créer des richesses. Entre nous, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, le petit problème, il y a quand même un aléa moral là-dedans, c'est que plus vous allez mettre de l'argent dans la répartition, plus l'État va dire, ah ben, je peux aller plus vite vers la retraite minimale. C'est un système au fond de CNAV qui est juste un vaste système, une pompe à redistribution, et oui, surtout pas un système d'assurance. Dernier point, on a quand même un petit problème avec les PER, c'est quand vous parlez un produit d'assurance vie et un produit de PER, la fiscalité est telle que quand même le rendement au bout de 20 ans de votre PER, il est 20% plus bas que celui d'un produit d'assurance vie. Donc là,
ah
il
oui,
faut repenser...
L'écart est aussi important que ça.
Alors, c'est le le calcul brutal. Hein. Après ça, vous pouvez faire des modalités un petit peu plus sophistiquées. Ça veut dire que le produit d'assurance retraite doit être pensé et repensé fiscalement. Ce qui existe aujourd'hui est de loin largement insuffisant. Qu'on le compare à l'assurance vie, je ne parle pas naturellement de le comparer aux cotisations sociales.
Oui. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Marilyn Villard-Desbaux, présidente fondatrice d'Origami & Co, Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes, et Jean-Charles Simon, président de Propriété et Liberté. Cette émission est disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est BFM Entreprise animé par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve demain. Alors, pas moi, mais mon confrère Anthony Morel pour une spéciale IA, les experts spéciales IA en direct depuis VivaTech, au même horaire, toujours 9h30, 10h30. Très belle journée à tous, à bientôt.
Les experts, débat et controverses sur BFM Business.